Chers téléspectateurs de la télé Al-Houda, chaîne de la guidance, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Souvent critiqué, tantôt apprécié, l'islam est l'une des plus grandes religions dites monothéistes. Tirant ses origines d'Abraham, le père des religions révélées, il continue de susciter débats, passions et interrogations à travers le monde. Perçu comme une pratique et une doctrine figée aux antipodes de la modernité, l'islam est souvent la cible des plumes acerbes de certains caricaturistes, notamment occidentaux. À côté de cette image, l'honnêteté recommande de reconnaître que l'islam est cette religion qui a su conserver intacte, grâce notamment au Coran, ses textes fondamentaux et son héritage culturel et spirituel, et ce, malgré les différentes tentatives d'étouffement et de dénigrement. Dans l'objectif de jeter une lumière sur ces questions et bien d'autres, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur le plateau de la chaîne Al-Houda un éminent cheikh et frère en islam qui n'est plus à présenter. Il nous vient de la RDC Congo. Il s'agit, vous l'aurez imaginé certainement, de l'imam Abdul Majid Kosunuba, fondateur et président du groupe islamique de prédication Al-Badrou de Kinshasa RDC. Salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Avec lui, il sera notamment question de sa biographie, de la situation de l'islam au Congo. L'occasion faisant le larron, nous ne manquerons pas d'aborder certains sujets brillants comme la charia, l'islam et le terrorisme. Avant de donner la parole à notre invité, il sied de rappeler qu'il est accompagné par d'éminentes personnalités islamiques, en l'occurrence Oustaz Elenga Abdul Hamid, chef de délégation, le frère Mani Breko Abdul Malik, prédicateur et ex-pasteur, et bien sûr Lamine Sankaré, qui est le coordinateur de cette structure. Cela dit, Cheikh Abdul Majid, qu'est-ce qui vous a motivé ou qu'est-ce qui a été à l'origine de votre visite au pays des hommes intègres?
Merci beaucoup pour la question. Je commencerai par louer Allah, le maître des circonstances, qui a voulu que nous venions par sa grâce, n'est-ce pas, visiter nos frères et sœurs du Faso. Et j'implore sa grâce et ses bénédictions sur notre vénéré prophète Mohammed, sur les gens de sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tout prophète véritablement envoyé par Dieu dans le but de tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Alors, en fait, je vous dirais simplement ceci, que si je suis venu, c'est à la demande de mes frères et sœurs burkinabés, n'est-ce pas, qui m'ont connu à travers des supports médiatiques que nous avions eu à réaliser par la grâce de Dieu au pays. Et leur demande s'est exprimée donc dans l'action des associations islamiques représentées par les SERFI, qui nous a officiellement envoyé une invitation. Donc ils ont tenu à ce que nous puissions venir au Burkina et puis voir nos frères. Mais avant cela, c'est nous-mêmes, nous étions animés de cette envie-là, c'est-à-dire de venir de voir nos frères et sœurs partout dans le monde, car vous le savez, il n'y a pas de plus grande joie que de se sentir aimé par ses frères et sœurs, rien qu'en Dieu et pour Dieu. C'est pourquoi nous sommes là, par la grâce de Dieu.
Ok, merci beaucoup. Effectivement, parlant de ces différentes productions audiovisuelles que vous avez donc produit au niveau donc du Congo, et est-ce que peut-on avoir une idée sur votre parcours scolaire et professionnel, c'est-à-dire le chemin que vous avez emprunté, qui vous a conduit à cet état?
Bon, simplement, je dirais simplement ceci, que je suis votre frère Abdul Majid de la République démocratique du Congo, qui est né un certain 21 février 1972. Certains peut-être en me voyant penseront que je suis un vieux, ou d'autres diront peut-être qu'il est encore jeune. Bon, disons, par la grâce de Dieu, je suis venu au monde en 1972. Et donc j'ai étudié dans des écoles chrétiennes, et notamment catholiques, chez moi. Donc je suis détenteur d'un diplôme, n'est-ce pas, en sciences pédagogiques appliquées, options histoire et sciences sociales. Et j'ai également été étudié au Soudan, n'est-ce pas, au Dakhili Rouad, c'est-à-dire qui est le centre islamique de formation des leaders. Et j'ai été également étudié en Égypte, à l'Académie islamique de Dirassat el-Milal Waladian, c'est-à-dire Académie islamique d'études de coutumes et religions. Et religions comparées, donc bon, j'ai choisi cela simplement parce que, comme vous le savez, je viens d'un pays, la RDC, qui est l'un des trois pays en Afrique qui connaît une forte, n'est-ce pas, concentration mais chrétienne. Et donc nous vivons avec nos frères et sœurs chrétiens et pour essayer un peu de marquer la présence islamique, donc j'ai jugé bon d'aller de faire l'étude des religions comparées.
Donc nous allons voilà, en venir par rapport à la situation de l'islam au Congo. Effectivement, comme vous l'avez signifié, dans ces pays, que ce soit au Congo ou en général en Afrique centrale, il y a une prolifération des sectes, des tendances, des confessions. Comment est-ce que les musulmans se portent dans ces contrées-là?
Oui, bon, nous avons au niveau local, il y a des petits problèmes, ça ne manque pas, et surtout que c'est nous-mêmes les musulmans, disons, parce qu'il y a jusque là dans mon pays, en Afrique centrale, les musulmans n'ont pas encore réussi à bien s'organiser, n'est-ce pas, comme nous le constatons aujourd'hui, notamment dans les pays en Afrique de l'Ouest, comme aujourd'hui au Burkina Faso et ailleurs, partout où nous sommes passés, il y a des musulmans qui essaient de s'organiser, d'avoir des structures qui leur permettent, n'est-ce pas, d'amener le débat sur l'islam à un niveau élevé. Et donc, chez nous, il y a des réalités locales que je ne saurais pas peut-être révéler ici, n'est-ce pas, parce que vous savez, en Afrique, il y a trois pays qui sont considérés comme étant des axes principaux d'où viendrait peut-être demain le développement de toute l'Afrique. Et parmi ces pays, il y a la RDC, il y a le Nigeria et puis il y a l'Afrique du Sud. Alors, cela étant, les autres ont développé...
C'est en termes économiques ou bien...
Oui, c'est pas seulement en termes économiques, mais en termes également stratégiques. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous avez ici, dans votre introduction, parlé de caricaturistes occidentaux qui racontent des bobards, qui font n'importe quoi pour essayer un peu de détourner les gens de la vérité de l'islam. Donc, c'est également le cas de la RDC. Mais nous, par la grâce de Dieu, on ne dira pas parce que nous n'avons pas assez de moyens, bien sûr, mais notre seule arme, n'est-ce pas, qui nous permet aujourd'hui de résister sur le terrain, c'est la vérité qui nous a été révélée par Dieu à travers son dernier des messagers, Mohammed, la paix de Dieu.
Est-ce qu'il y a une cause historique à cela? Lorsque vous essayez de comparer, d'établir un parallèle entre l'évolution de l'islam en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, est-ce qu'il n'y a pas une cause historique à cela?
Il y a une cause historique, et puis cette cause historique se retrouve presque partout dans les pays africains. Vous savez, notre pays était un pays qui a été colonisé par les Belges, n'est-ce pas? Et avant même que ce sont les Belges d'ailleurs qui nous ont apporté le christianisme. Mais avant même que les... Bon, ils sont rentrés par l'Ouest. Mais par contre, à l'Est, les Arabes étaient à l'Est. Déjà à partir de Zanzibar, Kenya, ainsi de d'autres, Tanzanie, Kenya. Et c'est à travers ces Arabes-là que Dieu a permis la pénétration, n'est-ce pas, de l'islam en RDC. Et il y a eu même en RDC des royaumes islamiques. Et notamment Kasongo là-bas a tweeté. Mais quand, une fois que le colonisateur est venu au pays, et avec le christianisme comme étant sa religion, ils ont aussitôt déclenché une guerre contre, n'est-ce pas, les Arabes qui ont amené l'islam. Et donc ce qui a fait que nous avions été victimes, n'est-ce pas, de cette injustice pendant plusieurs années. Et l'islam n'a été, qui a existé d'ailleurs à l'est du pays avant le christianisme, n'a été, depuis le XVIIe siècle bien sûr, n'a été reconnu que comme religion, parmi les religions qui ont été reconnues par l'État congolais, qu'en 1972. Et jusque-là, il y a encore des petits problèmes, comme vous le savez.
D'accord. Il y a aussi un constat qui s'impose au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est que l'islam a des répercussions, du moins que l'héritage islamique est senti même dans les langues locales. Parce que vous prenez une langue, que ce soit le Mori ou le Yola, vous trouvez des expressions liées par exemple à la spiritualité, comme le nom des anges, le nom du paradis, qui se trouve effectivement, c'est le nom arabe. Est-ce que le même constat se fait et vérifié à votre niveau, au niveau donc du Congo?
Affirmatif, affirmatif. Nous avons par exemple au Congo la langue swahili. Et vous savez que la langue swahili, c'est l'une des langues africaines qui est beaucoup plus parlée par le peuple africain. Donc vous avez, il y a la langue haoussa et d'autres langues que vous connaissez, mais il y a la langue swahili, qui est une langue qui est un mélange des langues, de la langue arabe et des langues bantoues. C'est pour le mot swahili même en arabe, swahil, c'est-à-dire les gens qui vivent au bord des côtes, disons. Et donc il y a beaucoup de mots dans la langue arabe qui seraient dans la langue arabe plutôt qui se retrouvent aujourd'hui dans la langue swahili et vice versa.
Et au niveau vestimentaire?
Oui, au niveau vestimentaire, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, pas en ce moment, mais disons à cette période, parce que ces valeurs-là tendent à disparaître. Mais à l'époque, avec l'agression culturelle que nous subissons de la part des, notamment des pays occidentaux, de la culture occidentale, mais à l'époque, à l'est, on ne pouvait pas différencier, faire la différence entre un musulman et un non-musulman. Parce que tous s'habillaient de la même manière, ils parlaient de la même manière, et c'est simplement parce qu'ils étaient influencés par la culture islamo-arabe que les gens de l'Est avaient connu.
D'accord, très bien. L'autre sujet aussi qui est un peu préoccupant pour les musulmans qui vivent à l'époque contemporaine, c'est souvent en fait la question de la laïcité. Et beaucoup donc de sujets, beaucoup donc de forats, beaucoup de rencontres dans son tennis et ça et là pour débattre de la question. Est-ce que, en tant que penseur islamique, en tant qu'un prédicateur de renom, trouvez-vous est-ce que opportun ce genre de débat ou est-ce que l'islam est dans un cas et la laïcité dans un autre?
Oui, bon, moi je dirais simplement ceci. Bon, la laïcité, elle est bonne. La laïcité est une chose qui n'est pas, n'est-ce pas, rejetée par les textes islamiques. Du moins la laïcité dans sa forme originelle, dans sa forme authentique. Parce qu'aujourd'hui, la laïcité a pris une autre connotation. Oui. Donc,
laquelle?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens définissent la laïcité par rapport à l'islam. Par rapport à l'islam. Parce que ceux qui font la promotion de la laïcité n'a pas commencé avec nous en Afrique. Hein. Ça a commencé hier. Et ceux-là savent que pour eux, il n'y a qu'une seule religion qui constitue un danger pour leurs intérêts. Et cette religion s'appelle l'islam. Donc aujourd'hui, la laïcité a pris une autre forme. Ce n'est plus un terrain qui permet aux gens des différentes confessions, n'est-ce pas, d'exprimer leur foi, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, la laïcité tend à aller va dans le sens même d'interdire certains, n'est-ce pas, de pratiquer leur religion comme ça se passe aujourd'hui en Europe. Si vous comprenez. Mais quant à l'islam, l'islam nous a déjà, d'abord même le dialogue islamo-chrétien, c'est une initiative islamique. Nous le trouvons dans le Saint-Coran, où Dieu nous dit aux gens du livre, venez en une parole qui nous est commune, que nous n'adorions que Dieu seul, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit. Et vous verrez des versets tels que Lakum dinukum, déjà à l'époque du prophète, à vous votre religion, à nous notre religion. Donc nous respectons les pratiques des autres, mais respecter les pratiques des autres ne voudrait pas dire que nous avons la même vision de la chose par rapport à ces pratiques, ou encore que nous serons prêts à pratiquer leurs pratiques, n'est-ce pas? Donc ce qui est à déplorer ici, c'est que la laïcité, comme nous l'avons compris, il y a nos frères qui sont en Europe passés par là, le frère Tariq Ramadan, Hadni Ramadan et les autres qui ont débattu de cette question plusieurs fois sur le terrain européen, et nous avons compris que la laïcité aujourd'hui a pris un autre sens. Donc elle a été détournée, n'est-ce pas, de son objectif, et cela par rapport à l'islam. Par rapport à l'islam.
C'est-à-dire on veut seulement interdire aux musulmans de pratiquer les religions.
Oui, il arrive que dans certains contextes, que les gens braquent la laïcité, n'est-ce pas, comme une arme devant leur permettre de barrer la route à l'islam, alors que ce n'est pas cela le cas. Donc lorsqu'on parle de la laïcité doit être une théorie ou une thèse qui doit permettre, n'est-ce pas, aux gens de différentes confessions, bien que nous musulmans, parce que vous l'avez dit, j'aimerais qu'on revienne sur ce point, parce que pour nous les musulmans, il n'y a jamais eu plusieurs religions révélées par Dieu. Il n'y a qu'une seule religion qui a connu plusieurs dispensations prophétiques. Ça, il faut le dire, parce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit. « Nahnu ma'ashara al-anbiya abna'u la dinuna wahid » Donc il faudrait encore que nous apportions des explications pour que les gens puissent comprendre cela. Et ça sera beaucoup plus facile. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est que pour nous, selon le sens initial, n'est-ce pas, de la théorie de la laïcité ne devait pas constituer une barrière, n'est-ce pas, entre le peuple, ou une barrière pour empêcher un groupe de gens, n'est-ce pas, de pratiquer leur religion. Ça devait pourtant permettre à tout le monde de pratiquer les religions respectives, mais dans le respect de la religion d'autrui. C'est un peu ça.
Très bien. Voilà. Bien sûr, aux côtés de cette question de la laïcité, il y a aussi des clichés qui sont collés à l'islam, à savoir l'intégrisme ou du moins le terrorisme. Le plus souvent, l'islam est présenté comme une religion encourageant le terrorisme. Les tenants de cette thèse-là se basent sur, sur certains versets qu'ils jugent bénéfistes ou bénéquiers, qui, n'est-ce pas, commandent le djihad, etc. Quelle est votre lecture de la citation?
Il n'y a aucun verset du Coran qui incite les musulmans à tuer les gens, à tuer les innocents, ainsi de suite. Donc l'islam en soi est contre le terrorisme. Le terrorisme est une valeur négative qui n'est pas encouragée par l'islam. Parce que déjà le Coran, Dieu dans le Coran nous dit, celui qui tue une âme innocente, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Et celui qui sauve une âme, c'est comme s'il a sauvé toute l'humanité. Mais ceux qui disent, qui accusent l'islam d'être une religion qui encouragerait le terrorisme, sont eux-mêmes incapables aujourd'hui de définir ce que c'est que le terrorisme. Ouais, parce que si on définissait aujourd'hui le terrorisme, ce sont ces nations-là ou ces gens-là qui accusent aujourd'hui l'islam, injustement bien sûr l'islam, d'être une religion qui encouragerait le terrorisme, qui viendront en première position. Et ici, je me dois de vous rappeler les propos de l'actuel président chinois lors de sa première intervention. On lui pose une question sur les droits de l'homme, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais comment? La Chine a toujours été pointée du doigt. Oh non, droits de l'homme. Mais la Chine n'a jamais exporté des guerres ailleurs. Toutes ces choses négatives-là, la Chine ne les a jamais faites. Mais elle est toujours acquise. Par contre, c'est ceux qui accusent la Chine de ne pas respecter les droits de l'homme, ce sont eux les premiers à bafouer les droits de l'homme. Donc nous disons que si aujourd'hui donc on peut définir ce que c'est que le terrorisme, et ils viendront en première position. Parce que l'islam n'encourage pas cela. Mais encore, il faudrait encore le dire, que même si l'islam est contre le terrorisme, et que nous tous, nous n'aimons pas le terrorisme, mais il y a une question qui fait peur à ceux qui accusent l'islam d'être terroriste. N'est-ce pas? Lorsqu'on leur pose par exemple la question de savoir, mais ces gens-là qui pratiquent le terrorisme, pourquoi sont-ils terroristes? Parce que nous savons tous qu'on n'est pas avec les chromosomes du terrorisme, mais on devient terroriste. Mais pourquoi sont-ils devenus terroristes? C'est ça la question qui fait peur. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, mon frère, vous ne pouvez pas mettre fin à la présence des moustiques dans votre maison si vous n'avez pas au préalable pris soin d'assainir l'environnement. Il faut assainir l'environnement pour que les moustiques disparaissent d'elles-mêmes. Vous pouvez utiliser n'importe quel produit pour les tuer, les massacrer, mais les moustiques seront toujours là. Donc tant que ceux qui dominent aujourd'hui le monde continueront à se comporter d'une manière irresponsable, injuste, sadique et inhumaine envers le monde musulman, il y aura toujours des gens qui se lèveront pour agir même en contradiction avec leurs propres principes, les principes de leur religion, pour faire quoi? Pour les attaquer. Parce que nous, quand on fait une lecture objective, on trouve que non, ceux qui aujourd'hui qui pratiquent le terrorisme, même si l'islam ne l'encourage pas, ils trouvent dans cette pratique comme l'arme du faible. C'est-à-dire, il n'a plus un autre moyen, n'est-ce pas? Mais il accepte de se sacrifier.
Donc c'est un moyen désespéré.
Un moyen désespéré pour des peuples qui sont désespérés.
Il faut pour autant tolérer le terrorisme?
Non, on ne tolère pas. Nous devons les dénoncer et en même temps, c'est-à-dire révéler les causes du terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, une maladie, si vous souffrez aujourd'hui du pali par exemple, ou de n'importe quelle maladie, vous n'allez pas chercher vous à traiter ce qui est sur le visage. Il faut chercher à connaître
la cause.
Une fois que vous aurez remédié à la cause, la maladie disparaîtra d'elle-même.
Il n'y a pas d'autre forme de revendication outre que la violence pour parvenir à ces fins?
Non, mais il n'y a qu'un groupe de gens qui pratiquent cela. Ce n'est pas tous les musulmans. Les autres musulmans, et ils continuent à respecter les principes de l'islam, n'est-ce pas? Ils continuent à prêcher leur religion, ils continuent à vivre en paix avec les autres. Mais nous n'avons pas tous la même disposition intérieure.
Tout à fait.
Mais nous condamnons cela.
Donc
nous n'encourageons jamais cela, parce que notre prophète ne nous a pas appris à répondre au mal par le mal. Il nous a appris à répondre au mal par le bien. Est-ce que vous comprenez? Et nous ne sommes pas comme les autres. Ils disent, non, si on te frappe à la joue droite, il faut qu'on présente l'autre joue. Non, nous n'agressons pas. Mais lorsque nous sommes agressés, nous serons dans l'obligation de faire quoi? De répondre, de nous défendre.
Mais si, légitime défense.
Mais si l'ennemi, celui qui nous a agressés, prend la décision d'arrêter, n'est-ce pas, de cesser avec son agression, le Coran nous exige à nous, nous ordonne à nous, les musulmans, de cesser aussitôt les hostilités. Donc on a pris le droit, n'est-ce pas, de répondre quand l'ennemi a cessé de nous attaquer.
D'autres griefs aussi qui sont faits à l'islam, c'est voilà, son caractère figé et qui date d'une époque même très moyenâgeuse, etc. Et les prescriptions, les valeurs donc que contient donc le Coran serait dépassé et serait, n'est-ce pas, aux antipodes de la modernité. Est-ce que peut-on dire que l'islam est en quelque sorte contre la modernité, ou dans quel cadre placer l'islam face à la modernité?
Je dirais simplement ceci, que l'islam, comme le prophète lui-même l'a nommé, c'est le dinul fitra, c'est-à-dire la religion qui est conforme à la nature originelle de l'homme. Ce qui implique à dire quoi? Ce qui implique à dire que l'islam ne peut en aucune manière être contre la modernité. L'islam est contre le modernisme, pas la modernité.
Les modernes. La nuance?
La nuance c'est quoi? C'est-à-dire, il y a un groupe de gens, n'est-ce pas, qui voudraient définir la modernité à leur manière. Et qui peuvent, par exemple, nous présenter des choses que Dieu a interdites comme étant ce que nous devons faire.
Parce que c'est conforme à l'époque moderne.
Parce que c'est,
ou à la mode.
Non, c'est, oui, on peut dire que c'est conforme à l'époque moderne, une époque qui a détruit toutes les vraies valeurs spirituelles et morales enseignées par Dieu et ses prophètes. Est-ce que vous comprenez? Donc l'islam ne peut pas être contre la modernité. L'islam est d'accord avec la modernité. D'ailleurs, c'est la seule religion qui est d'accord avec la modernité parce qu'elle n'a jamais trahi ses principes. Mais quelle modernité? Est-ce que c'est une modernité? C'est une modernité qui nous détourne de valeurs spirituelles et morales de l'humanité, positives donc, ou une modernité qui nous permet plutôt de revenir aux vraies valeurs spirituelles et morales de l'humanité conformément au but de notre existence sur la terre? Donc l'islam n'a pas un problème avec la modernité. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le savant Georges Bernard Shaw, qui est un prix Nobel de littérature en 1925, c'est un grand savant occidental. Il est un chrétien, il n'est même pas un musulman. Il a clairement dit,
Britannique,
j'ai étudié l'histoire, la vie de cet homme Muhammad, donc qui est le porteur du Coran, et qui a amené, c'est à lui que Dieu avait révélé la forme parfaite et définitive de cette religion qu'on appelle l'islam, et qui a été prêchée par l'ensemble des messagers de Dieu, mais qui a simplement connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Donc il dit ceci, je cite Georges Bernard Shaw, j'ai étudié la vie de cet homme Muhammad. Loin d'être un antéchrist, il mérite d'être appelé le sauveur de l'humanité. Car si on lui remettait le gouvernement du monde, il trouvera les solutions à tous nos problèmes. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il dit, je prédis même que la religion de Mohammed sera acceptée par l'Europe dès demain, comme il commence à être accepté par l'Europe d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, la deuxième religion en France.
Regardez aujourd'hui comment l'islam avance. Les Européens commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre que c'est qu'avec l'islam seulement que ce monde sera un jour sauvé.
Ya Mohammed, ya Nabi,
Télé Al-Houda, la chaîne de la guidance.
Voilà, on accuse aussi les musulmans d'être vraiment des gens qui bafouent les droits de la femme, les droits de l'enfant, etc. En persistant à autoriser, n'est-ce pas, la polygamie et d'autres choses, et le partage est inéquitable, donc de l'héritage entre les enfants, que ce soit selon le sexe. Qu'est-ce que l'islam propose comme solution, ou qu'est-ce que l'islam englobe comme prescription liée au respect des droits de la femme et de l'enfant?
C'est simple ça. D'ailleurs, moi je dirais que les gens qui racontent ces bobards sur l'islam ne sont que des gens que personnellement je qualifie, des gens qui réfléchissent d'après l'intellect des islamophobes et qui se permettent donc de porter jugement sur les dauphins avant d'avoir été à la rivière ou à l'océan. Parce que l'islam, s'il faut acquiser l'islam, il faut acquiser l'islam sur base de ses textes de référence. Il ne faut pas vous appuyer sur ce que les ennemis de l'islam disent, parce que si vous vous appuyez sur ce que les ennemis de l'islam disent, vous serez non seulement vous allez vous faire pour quelqu'un qui est trois fois ignorant, mais quelqu'un qui est encore injuste envers trois personnes. Trois fois ignorant comment? C'est-à-dire vous allez dire des choses que vous ignorez, qui ne sont pas vraies, et au même moment, vous ignorerez que vous êtes vous-même ignorant. Et enfin, vous ignorez que celui qui vous a appris ces choses est lui-même ignorant. Et vous ferez injustice à trois personnes. Pourquoi? Vous ferez d'abord injustice à vous-même, n'est-ce pas? Parce que notre conscience a des droits sur nous, n'est-ce pas? Et vous ferez également injustice aux gens à qui vous êtes en train de transmettre ces fausses informations.
Parce que, comme je le disais, la conscience des droits sur nous, et l'un de ses droits consiste à être juste envers les autres. Et en la masse, donc, tout ça, donc, c'est vraiment de l'injustice. Mais si on peut dire quelque chose par rapport à cette...
Les
droits de la femme en Islam. Moi, je dirais qu'il n'y a pas un seul livre au monde qui a donné, qui a conféré à la femme des droits positifs qu'est l'islam. La preuve amenée aujourd'hui, vous verrez par exemple, mais c'est l'islam qui donne à la femme les droits même d'hériter son mari, les droits d'hériter son père. Aujourd'hui, par exemple, quand je prends la Bible des chrétiens, mais la femme n'a pas les droits d'hériter son mari. Elle n'a pas le droit d'hériter son père dans la Bible chrétienne. Ça n'existe nulle part. Et c'est l'islam ou les musulmans qui sont les bienfaiteurs de la femme. Lorsque vous parlez par exemple de la polygamie, mais Étienne Diné nous dit quoi? C'est un savant français. Il dit, le système monogamique qui a été adopté par exemple par le christianisme est un système qui a trois conséquences graves dans la société. Et nous, les musulmans, nous lui disons, il n'a pas seulement trois conséquences, mais cinq conséquences. La première conséquence, selon Étienne Diné, il dit, c'est la prostitution. Vous savez, nous vivons dans un monde où les pyramides démographiques sont en faveur du taux de la femme.
Tout à fait.
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes.
Au Burkina, elles sont 52%.
52%. Imaginez par exemple, si on avait 6 millions de femmes mariables, et il n'y a que 2 millions des hommes qui doivent se marier, si les 2 millions épousaient 2 millions de femmes, il y aura 4 autres millions de femmes qui resteront sans mari. Mais bon, qu'est-ce que les autres proposent comme solution pour pallier à ce problème?
Un fait concret.
Est-ce que vous comprenez? Il n'y a aucune solution. Mais c'est seul l'islam qui a apporté la meilleure solution, la vraie solution. C'est pourquoi Étienne Diné, que j'ai cité ici tantôt, disait, une société qui adopte la monogamie connaîtra trois conséquences graves. Premièrement, la prostitution. Deuxièmement, les enfants illégitimes. Troisièmement, les célibats. Il y a des femmes qui vont rester sans mari. Alors que même dans la Bible chrétienne, Dieu nous dit dans Ésaïe 4:1, il arrivera un moment où sept femmes s'attacheront à un seul homme et lui diront, nous nous vêtirons nous-mêmes, nous allons nous nourrir nous-mêmes, fais-nous seulement porter ton nom pour enlever notre honte, la honte du célibat. Alors il y a ces trois conséquences. Alors l'islam ajoute deux autres conséquences. C'est quoi? L'infidélité. Les hommes deviendront infidèles. Y compris aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, on vient de publier un rapport comme quoi les femmes sont plus infidèles que les hommes aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Et enfin, la dernière conséquence selon l'islam, c'est la dépravation totale des mœurs. Cette société connaîtra une dépravation totale des mœurs, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que ce qui domine aujourd'hui le monde nous voudrait nous amener vers un monde où il est interdit d'interdire. Et où tout ce que Dieu a interdit est permis. Et ça, c'est le plus grand danger. Parce que lorsqu'on parle du péché d'Adam, comme les chrétiens disent, parce que pour nous, par exemple, nous ne naissons pas avec le péché d'Adam.
Le péché originel.
Le péché originel, nous ne naissons pas avec ce péché. Les autres disent, nous naissons avec ce péché, biologiquement. Mais non, parce que c'est un péché auquel nous n'avons pas participé, ni en théorie, ni de fait. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu lui-même est plus que clair dans le Coran comme dans les autres livres en disant, je ne punirai jamais le père pour le péché du fils et moi encore le fils pour le péché du père. Mais nous en islam, le péché originel n'existe pas parce que l'homme est créé pur. Le péché c'est quelque chose qui l'écueille. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, nous perpétuons le péché d'Adam. Nous ne naissons pas avec le péché d'Adam, mais nous perpétuons le péché d'Adam. Qui consistait à faire quoi? Qui consistait à se détourner de la loi de Dieu. C'est-à-dire aussi longtemps que l'humanité continuera à se détourner de la loi de Dieu, elle serait en train de perpétuer les péchés de qui? Les péchés d'Adam. Parce que tous les prophètes, leur souhait était quoi? Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alors aujourd'hui, donc, avec la femme en islam, l'islam lui a donné de la valeur. Pas un seul livre n'a donné. Parce que je me rappelle avoir eu un débat avec un pasteur chez moi au Congo, je m'excuse d'être un peu long, autour de. C'était le jour de la journée de la femme, hein, internationale de la femme.
8 mars.
Oui, 8 mars. J'ai dit, écoutez. Vous aimez seulement, vous accusez l'islam de loin en disant que l'islam ne considère pas la femme, ceci, cela, ceci, cela. Mais regardez, moi j'aimerais qu'on s'assoive, que vous veniez avec votre livre et que moi je vienne avec les miens, qu'on regarde quels sont les droits, c'est-à-dire quels sont les droits et les devoirs de la femme en tant que mère, en tant que femme, épouse, en tant que fille, en tant que sœur, en tant que personne à part entière dans la société. sur base de nos propres références. Mais personne ne le fera.
Oui.
Personne ne le fera. Donc l'islam a donné à la femme de la valeur. Mais sauf que c'est que même les femmes musulmanes doivent comprendre, y compris les femmes non musulmanes, comme ils le savent, que dans les jardins d'Éden où vivaient Adam et Ève, Satan a cherché plus à égarer l'homme à travers sa femme. Et aujourd'hui, la religion de Dieu qui est l'islam est beaucoup plus attaquée par les ennemis de l'islam à travers, sur la question de la femme. Alors qu'il n'y a aucune religion sur cette terre qui a donné à la femme plus de droits que l'islam. Et lorsque vous parlez des enfants, mais en islam, les droits de l'enfant commencent même avant qu'on épouse sa maman.
Comment?
Mais parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous devez savoir choisir la femme qui deviendra la future mère de vos enfants. C'est-à-dire, les droits des enfants, c'est avant même qu'on épouse leur mère.
Et en définissant des critères bien précis.
Des critères bien précis. Parce que la femme, c'est elle l'éducatrice de l'humanité. Si vous épousez une mauvaise femme, mais c'est toute la postérité qui va s'égarer du droit chemin. Et si vous épousez une bonne femme, c'est toute la postérité qui sera sauvée et qui sera utile non seulement pour vous-même, mais aussi pour la société dans laquelle.
Cheikh Abdul Majid, ce qui m'amène à poser cette question et qui souvent on reproche à l'islam d'avoir, lorsque un enfant n'a pas atteint sa majorité, on l'oblige par exemple à porter le voile. Ils disent que non, pourquoi ne pas laisser l'enfant, parce que l'enfant, enfin, en l'occurrence une fille, lorsqu'elle sera majeure, en ce moment elle peut décider de porter ou non le voile. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à cela? Cela, ce n'est pas aussi une contrainte?
Non, ce n'est pas du tout une contrainte. Vous savez, par exemple, l'islam, dans sa sagesse, a voulu que nous commencions par bâtir les biens à partir du bas âge. N'est-ce pas? Quand l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de puberté, n'est-ce pas, de choisir entre les biens et les mains, et les mal plutôt, si vous l'habituez à faire les biens, quand il va atteindre l'âge de puberté, il continuera à faire les biens. Et si vous l'aidez, vous lui avez donné l'habitude de faire le mal, parce qu'aujourd'hui on voit même dans certains pays ici des enfants qui fument, n'est-ce pas, qui prennent de l'alcool.
C'est drôle.
Simplement parce qu'ils voyaient leurs parents fumer ou leurs aînés fumer ou se droguer ainsi de suite. Et personne, d'ailleurs, ils le faisaient devant eux. N'est-ce pas? Et personne ne les interdisait de le faire. Finalement, ils les ont imités dans les mal. Donc l'islam nous demande, à nous, de par la sagesse divine, de commencer à les familiariser déjà avec le vrai valeur morale dès le bas âge. Et pour un musulman qui sait bien éduquer ses enfants, même s'ils atteignent l'âge de puberté, en tout cas, ils ne se détourneront plus jamais de ces vraies valeurs positives, n'est-ce pas, qui ont été enseignées par leur religion.
Très bien, Cheikh Abdul Majid. Voilà, ça nous amène également à aborder une autre question donc d'actualité, à savoir l'application de la charia, comme cela s'est fait actuellement au niveau donc du Mali, du Nord Mali, etc. Est-ce que, en tant que penseur islamique, en tant qu'islamologue, vous pouvez nous retracer un peu l'historique de la législation islamique, parce que selon, n'est-ce pas, les commentateurs des livres saints, il y a des étapes à observer donc dans l'application de certaines prescriptions islamiques. Est-ce que la charia doit être appliquée du jour au lendemain?
Bon, personnellement, en vous entendant parler, je n'ai même pas voulu vous entendre dire il y a des étapes, parce que c'est comme si vous êtes en train d'influencer ma réponse. Mais je vais vous aider.
Fais un commentaire.
Oui, c'est un commentaire, mais c'est comme si vous êtes en train d'influencer ma réponse. Je voudrais que c'est la sorte de moi-même pour que les gens puissent bien les comprendre.
D'accord.
Et d'ailleurs, je m'excuse de prendre la parole pour répondre à cette question, parce que nous avons un spécialiste de la question derrière nous, c'est le cheikh Abdulhamid Elenga, et qui est le chef de notre délégation par la grâce de Dieu. Mais ce que nous pouvons dire, c'est quoi? C'est-à-dire, nous ne sommes pas contre, par exemple, nos frères qui sont au nord du Mali. Nous ne sommes pas contre cela, n'est-ce pas? Quand ils viennent au nom de la charia, au nom de l'islam. Mais vous savez, quand vous venez au nom de l'islam ou au nom de la charia, c'est la suite qui nous montrera si vous êtes réellement venu au nom de la charia ou au nom de l'islam.
Et c'est quoi la charia?
Mais la charia, c'est ce mode de vie que Dieu a révélé à l'humanité tout entière à travers son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il aimerait nous voir, n'est-ce pas, pratiquer pour notre propre bien-être sur la terre et après notre mort. Parce que vous êtes sans le savoir que nous, lorsque Dieu nous dit dans le Coran, je n'ai créé les génies et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent, Ça veut d'abord dire quoi? Premièrement, c'est que Dieu a créé l'être humain dans le noble but de lui vouer un culte pur et sincère, car lui seul sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit. Le deuxième sens, c'est que l'être humain est appelé à mener une vie vertueuse et fondée sur la volonté de Dieu, exprimée dans le Coran et expliquée pratiquement dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur le plan vertical comme horizontal. Et en troisième, l'être humain, croyant musulman, est appelé à faire régner les lois de son Seigneur, n'est-ce pas, sur toute la terre, afin que Dieu soit reconnu unique et que sa loi soit reconnue unique sur la terre comme cela se passe au ciel. Est-ce que vous comprenez? Mais, comme vous l'avez dit, il y a des préalables. Et que c'est la suite, lorsque les gens viennent au nom de l'islam ou au nom de la chair, c'est la suite qui nous montrerait que si ces gens-là sont effectivement venus au nom de l'islam ou pas. Parce qu'il y a un processus. En islam, on ne pose pas la loi. Il y a d'abord l'éducation islamique qui doit précéder quoi? L'application de la loi sur toute la société. Il faut que les gens soient éduqués. Vous ne pouvez pas venir comme ça, vous dites, bon, je vis au nom de la charia, vous commencez à imposer aux gens une chose ou des choses qu'ils n'ont jamais appris à connaître ou à comprendre. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est-à-dire il y aura même des musulmans qui s'élèveront pour vous contredire, parce qu'ils n'ont pas compris la nature salvatrice de ce que vous leur avez apporté. Et si vous, de votre côté, vous n'avez pas respecté ces préalables, ça montre clairement que, en tout cas, vous n'êtes pas venu pour cela. Vous êtes plutôt peut-être vous avez plutôt utilisé cela pour assouvir, n'est-ce pas,
des faits personnels.
Est-ce que vous comprenez? Parce que celui qui vient au nom de l'islam et qui a vraiment les soucis de faire appliquer la loi de l'islam doit respecter le préalable qui nous a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, nous serions en train de commettre du tort à la religion de Dieu et à sa loi.
Effectivement, la plupart des sommités islamiques ont condamné cette application farouche, n'est-ce pas, de la charia au niveau.
C'est normal l'Église. Parce qu'ils ont compris qu'il y a un processus avant cela. Il y a un processus avant cela, n'est-ce pas? Donc, si on ne respecte pas les processus, les préalables, ça montre qu'on a d'autres intentions ou d'autres idées derrière la tête. Sans que nous ne remettions pourtant en cause la sincérité de nos frères, parce qu'ils sont musulmans. Mais on est musulmans, bien sûr. Nous avons comme religion l'islam. Encore faudra-t-il connaître et comprendre le Coran.
Est-ce qu'à l'époque du prophète, bien que la charia était appliquée, il y avait des non-musulmans qui n'étaient pas concernés par la charia?
Non, il y avait bien sûr des non-musulmans, mais lorsque nous vivons dans une société, par exemple, qui est en consonance musulmane, on nous dit toujours qui est dans la maison d'autrui, laisse des fois à la porte. C'est-à-dire, quand vous vivez dans une société qui est régie par les lois islamiques, vous devez respecter ces lois. Et si l'islam reconnaît en vous comme étant des gens qui ne professent pas la foi islamique, l'islam a prévu déjà un mécanisme pour le respect des droits de ces minorités
qui vont garder leur statut.
Il est interdit, même nous avons vu dans l'histoire de l'islam où les prophètes, même ses successeurs, disaient aux musulmans que tel groupe de gens qui ne partagent pas la même foi que nous ont, c'est-à-dire, liberté de culte. Et puis leurs droits doivent être respectés. Quiconque s'en prendra à eux, s'en prendra directement à nous. C'est pour montrer
qu'il faut.
C'est un principe islamique.
Voilà. Nous allons aborder actuellement une question qui vous est chère, notamment la relation entre le christianisme et l'islam. Vous avez notamment donc beaucoup de débats là-dessus. Beaucoup posent l'islam ou opposent l'islam au christianisme. Est-ce que l'islam et le christianisme doivent-ils entretenir une relation donc de complémentarité ou une relation conflictuelle?
Ça va, c'est-à-dire, bon, c'est une question un peu pertinente, si vous comprenez, mais s'il faut qu'on dise la vérité, parce que nous sommes également appelés à dire la vérité, il faudrait d'abord commencer par savoir, par connaître les noms de la religion de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, on parle du christianisme, nous les musulmans, nous n'avons aucun problème avec Jésus, le fils de Marie, que la paix de Dieu soit sur lui.
Qui était un prophète.
Il est cité plus de 79 fois dans les Saints Corans. Sa mère Marie, il y a toute une sourate du Saint Coran qui porte son nom et qui n'existe pas dans la Bible. Sourate Maria. Il y a pas, certains, il y a des chapitres, des livres dans la Bible qui portent même les gens, les noms des gens qui n'ont jamais reçu de Dieu une révélation. Mais dans le Coran, il y a Marie qui, dont les insourates portent les noms. Nous croyons à la naissance miraculeuse de Jésus. Nous croyons qu'il fut l'un des plus grands messagers de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a aucune différence entre nous, il n'y a aucun problème entre nous et Jésus, parce qu'aujourd'hui, si Jésus revenait, il portera une barbe comme moi. Il mettra une soutane comme le musulman et il priera en se prosternant sur un tapis ou directement au sol, en se prosternant face contre terre comme font les musulmans. Et avant même de prier, il va prendre ses ablutions comme
et vers la Kaaba.
Est-ce que vous comprenez? Oui, en se tournant, parce qu'à son époque déjà il regardait vers Jérusalem. Étant donné que Mohammed est venu après lui et que celui que nous devons suivre aujourd'hui, s'il revenait aujourd'hui, il va se tourner vers la Kaaba. Alors le problème c'est quoi? C'est que sur le plan inférieur, si par exemple nous étions aujourd'hui tous des Burkinabés et que chacun de nous a sa confession religieuse, nous sommes appelés à vivre ensemble, n'est-ce pas? Et à nous respecter mutuellement. Donc on peut pas avoir, il ne peut pas y avoir des problèmes entre chrétiens et musulmans. Mais maintenant sur le plan supérieur, nous disons chez nous, les musulmans, que si Dieu est unique, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si le message salvateur comporté tous les prophètes est unique, si le but de la création de l'être humain est unique, si le but de l'envoi des messagers de Dieu est unique, nous devons savoir que la religion qui a été prêchée par les messagers de Dieu est unique. Et cette religion, le prophète Mohammed le dit, comme je l'ai dit dans cet hadith, « Nahnu ma'ashara al-anbiya wa mirlanuk »« Nahnu ma'ashara al-anbiya abna'ula dinuna » Nous, l'ensemble des messagers de Dieu, nous sommes comme les enfants des mêmes pères, mais des mères différentes. Notre religion est une. Donc, il n'y a qu'une seule religion provenant de Dieu. Et nous disons que Jésus-Christ et tous les prophètes qui sont venus avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient des musulmans. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient des adeptes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que c'était des gens qui se soumettaient à la volonté de Dieu, qui ont d'abord été envoyés par Dieu, un seul et unique Dieu, qui ont porté un seul message, qui consiste à inviter l'humanité à adorer Dieu sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, et à se soumettre à sa volonté, n'est-ce pas? Donc tous ces prophètes étaient des musulmans. Il n'y a jamais eu plusieurs.
Donc le terme musulman veut dire
soumission à la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc tous les prophètes étaient des musulmans. Donc si aujourd'hui on doit parler de l'islam aux non-musulmans, et en l'occurrence à nos frères chrétiens ou juifs, nous devons leur présenter l'islam comme étant la religion qui a été prêchée par tous les prophètes. Et c'est ce que dit le Coran et les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Le Coran et les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous montrent clairement qu'il n'y a qu'une seule religion provenant de Dieu, mais qui a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Le Coran nous montre clairement, à partir d'une déduction qu'ont fait les savants, si l'on peut parler de plusieurs religions, on dira qu'il y a deux religions. Le Coran nous dit imma shakiran wa imma kafur, où l'homme est reconnaissant envers son Seigneur, où il est ingrat envers son Seigneur. Donc il n'y a que deux religions au monde. Il y a la religion de Dieu qui invite l'humanité à l'adorer, d'abord à reconnaître et à témoigner de son unicité, à l'adorer sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, à se soumettre à sa volonté, ça c'est la religion de Dieu, et la religion du diable qui détourne l'humanité des vouloirs divins. Donc il n'y a pas plusieurs religions. Les autres doivent simplement comprendre que si aujourd'hui ils acceptent Muhammad, la paix de Dieu soit sur lui, ils vont, c'est-à-dire, préserver cette religion, cette foi, cette chaîne prophétique et cette sainte doctrine qui a été prêchée par l'ensemble des messagers de Dieu. Et cela pour leur bien-être. Parce que lorsque le prophète parlait des chrétiens, par exemple, il a dit, si un chrétien croit en moi, il aura des récompenses. Parce qu'il a cru à mon frère Jésus, qui est un prophète, et il croit en moi, qui suis un prophète. Dieu lui donnera des récompenses. Le Mohammed n'est pas venu pour vous détourner de la voie de Dieu, mais pour rétablir le culte pur et sincère que nous devons adresser à Dieu unique et nous permettre de rester dans le respect de la chaîne prophétique des prophètes que Dieu avait envoyé.
Donc, cher Abdelmajid, nous acheminons vers la fin de cette émission, mais bien avant, nous avons deux thèmes principaux, à savoir la démocratie. Là, on parle un peu de l'islam politique. Est-ce que l'islam est compatible avec le système démocratique tel qu'il est perçu de nos jours?
S'il faudrait que je dise quelque chose là-dessus, vous savez, d'abord, la démocratie, ce n'est pas le système islamique. Parce que même quand nous lisons, nous savons tous qu'au ciel, là où règne Dieu et ses anges, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de communisme. Dieu règne à maître contesté, incontestable par sa loi pour le bien-être des créatures célestes. Il doit également régner sur la terre, en être contesté, incontestable par sa loi, pour le bien-être des créatures terrestres. Mais il y a processus, jusqu'à ce qu'avant que nous n'arrivions à ce stade, le stade qui nous permettra de reconnaître que Dieu est unique, et que seule notre obéissance à la loi de Dieu nous permettra de transformer cette terre en un terrain paradisiaque. Est-ce que vous comprenez? Où tout le monde vivra en paix, comme aujourd'hui la science nous permet de rendre le monde entier comme un petit village. Mais malgré cela, vous voyez encore, il y a des injustices par-ci, par-là. Il y a des gens qui meurent de faim, alors que les richesses que Dieu a créées sont proportionnelles à tous les peuples de la terre. Et vous verrez dernièrement ici, lors des premières élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique, le président Obama avait proposé au Sénat qu'on vote un budget de 700 milliards de dollars juste pour pallier aux problèmes des Américains. Mais quand vous regardez aujourd'hui, l'humanité est estimée, le nombre des humains aujourd'hui sur la Terre est estimé à 6 milliards ou 7 milliards. Bon, prenez les 700 milliards des Américains là, ça, pour pallier seulement aux problèmes des Américains. Prenez l'argent des Arabes, des Chinois, de toutes ces grandes puissances qui existent aujourd'hui. Est-ce qu'avec avec tout cet argent-là, on ne trouvera pas aujourd'hui les solutions aux problèmes qui rongent aujourd'hui les minages?
Donc c'est la répartition des richesses qui pose problème.
Oui. Aujourd'hui, c'est-à-dire, même si on nous parle de démocratie, ainsi de suite, mais étant donné que ce sont des systèmes inventés par l'esprit de l'homme païen, ce système n'arrivera jamais à établir la paix et la justice sur la terre. C'est pourquoi, vous voyez, il n'y a qu'une minorité, n'est-ce pas? Une minorité qui s'accapare de toutes les richesses du monde simplement parce qu'elle est militairement forte. Mais, s'il faut être objectif, donc, quand on parle de démocratie, nous, la démocratie en islam, ça nous arrange. Bien que la démocratie ne soit pas un système islamique, mais dans la démocratie, nous trouvons certaines valeurs qui sont positives et qui sont acceptées par l'islam. Hein, la liberté d'expression, la liberté de pratiquer, de professer sa religion, ainsi de suite, ça nous arrange. Mais des fois, ceux-là qui nous prônent la démocratie, ça leur fait mal lorsqu'ils voient les musulmans utiliser les avantages de leur système pour propager leur foi. Ça devient un problème. C'est pourquoi aujourd'hui, même en Occident, on commence à dire non, les musulmans profitent de la liberté que leur offre notre démocratie, n'est-ce pas?
Donc, vous savez qu'eux-mêmes, ils récusent le système qu'ils ont mis en place, parce que c'est comme la situation qui s'est produite en Palestine et en Égypte.
Oui.
Lorsque les frères musulmans sont arrivés au pouvoir, on a commencé à mettre les bâtons.
Mais c'est la même chose, vous me rappelez là un point important, regardez aujourd'hui à l'ONU. Il y a plus de 30 résolutions qui ont été votées contre Israël. Est-ce que elles ont déjà été appliquées? Non. C'est-à-dire, nous sommes des gens de paix. Aujourd'hui, nous aimerions, nous les musulmans, voir par exemple des États où Israéliens et Palestiniens vivront en paix. Les Israélites sont descendants d'Abraham. Les Arabes sont descendants d'Abraham. Ce sont des cousins. Jésus et Mohammed sont des cousins. Mais il y a quelque part des ennemis qui aimeraient toujours les voir en conflit. Parce qu'ils vivent de ces conflits-là. Mais malheureusement, ces enfants d'Abraham n'ont pas compris cela. Alors, les derniers mots reviendra seulement à dire, il sait lui-même quand est-ce qu'il mettra fin à ces conflits-là. Mais aujourd'hui, nous avons nos frères israéliens qui sont des musulmans. Ils sont des musulmans. Si vous consultez les sites Jews for Allah, ce sont des rabbins, des juifs convertis à l'islam, qui ont reconnu à Mohammed comme étant le véritable messager de Dieu envoyé pour le salut de toute l'humanité.
Ce sera vraiment un bon point de chute, parce que nous allons justement parler de l'avenir de l'humanité. Est-ce que l'humanité peut envisager un salut en dehors de l'islam?
Oui, d'abord, avant de répondre à cette question, il fallait que j'apporte la lumière sur un point. Parce que vous savez, certaines personnes sont allergiques au islam. Lorsqu'on les parle, ils attendent parler de l'islam, directement ils voient Mohammed, ils voient les musulmans avec leur chapelet. Non, encore faudra-t-il comprendre ou connaître ce qu'est l'islam. Je venais tantôt de dire que l'islam n'est pas la religion qui a été fondée par Mohammed. C'est ce que nous dit le Coran. Mohammed a trouvé l'islam, la paix de Dieu soit sur lui. Il a trouvé l'islam. L'islam n'a pas commencé avec lui. L'islam, c'est la religion de Dieu qui a été révélée à l'humanité à travers ses prophètes, dont le premier est Adam et le dernier est Mohammed. Mais Mohammed, lui, c'est à lui que Dieu a révélé la forme parfaite, définitive et universelle de l'islam. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Donc ce sera l'islam.
Est-ce que l'humanité peut envisager un
le salut en dehors de l'islam? Nous disons non. Nous disons non. Et quand nous disons non, et nous affirmons avec force et sans avoir froid aux yeux, que le monde ne sera sauvé que par l'islam. Cela a été dit dans le Coran comme dans la Bible. Et la raison raisonnante accepte cela. Et lorsque nous disons que le monde ne sera sauvé que par l'islam, il faut aussitôt que les téléspectateurs de la télévision Al-Houda qui nous suivent en ce moment puissent comprendre que lorsque nous disons par l'islam, ça veut dire par la religion qui a été prêchée par tous les prophètes de Dieu, ou par la voie salvatrice que Dieu nous a révélée à travers tous ses prophètes, en commençant par Adam jusqu'à Mohammed, en passant par Ibrahim, Moïse, Jésus, qui est la paix de Dieu soit sur lui. Donc en dehors de cette voie que Dieu a tracée pour notre propre salut, il n'y aura pas de salut. C'est la preuve en est jusque là. Vous voyez comment le monde est. Le monde est là. Mais à côté là, il y a une solution. Mais il fallait que cela arrive. Et cela arrivera, Inch'Allah.
D'accord. Nous allons, avant donc de clore cette émission, remercier les frères qui, notamment du CERFI, donc qui ont rendu possible la réalisation de cette émission, également les responsables de la télé Al-Houda et la Fondation Ben Massoud. Nous n'allons pas également au maître de faire une mention spéciale aux membres de la délégation qui accompagnent le frère. Il s'agit de Oustaz Elenga Abdul Hamid, chef de délégation, du frère Mani Beko Abdul Malik, prédicateur et ex-pasteur. Donc sans oublier le frère Lamine Sankere qui est donc le coordonnateur. Monsieur Cheikh Abdul Majid, c'est l'occasion maintenant de vous demander le mot de la fin.
Le mot de la fin, nous remercions Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis, n'est-ce pas, de visiter ce beau pays du Faso. Et nous lui demandons par son immense miséricorde, n'est-ce pas, d'assister surtout les autorités de ces pays, n'est-ce pas, en commençant par le président de la République, son Excellence Blaise Compaoré, que Dieu lui accorde la sagesse qu'il faut pour qu'il continue à travailler pour le bien-être de ces pays, et que Dieu assiste les musulmans et leur permette, n'est-ce pas, de relever la tête pour faire promouvoir les religions afin qu'elles puissent, qu'elles soient salvatrices pour tous les Burkinabés. Et je ne manquerai pas, je ne pourrai pas quitter ou finir avec vous cette émission sans saluer mon maître et cher Ahmad Simozrag, notre frère en islam qui a élu comme deuxième patrie Burkina Faso. Bon, Dieu a voulu qu'il vive avec vous ici. Il n'est pas seulement avec vous, il est également avec nous, parce que moi je l'ai connu à travers ses œuvres sur les nets. Et nous nous sommes rencontrés ici, que Dieu l'assiste. Amen. Et que Dieu mette tout ce qu'il fait dans la balance de ses bonnes actions les jours où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et que je demande encore, j'aimerais dire ici, adresser un message particulier aux non-musulmans, que parmi nos frères et sœurs burkinabés, que l'islam n'est pas une religion étrangère. L'islam, comme je le disais tantôt, n'est que cette unique, seule et unique religion qui a été prêché par l'ensemble des messagers de Dieu. Et qu'aujourd'hui, si vous vous convertissez en islam, en réalité, vous n'allez pas vous convertir en islam, mais vous allez retourner à votre religion originelle. Parce que le prophète nous a montré que tout enfant qui vient au monde, il vient au monde comme étant musulman. C'est-à-dire, il vient pour se soumettre à la volonté de Dieu. Il a été créé par la volonté de Dieu. Il vit sur une terre qui a été créée par la volonté de Dieu. Il doit vivre ici conformément à la volonté de Dieu. Et il ne quittera ce monde que par la volonté de Dieu. Et il comparaîtra devant le tribunal de Dieu pour être récompensé selon ce qui, la manière dont il s'est comporté par rapport à la volonté de Dieu qui a été prêchée par tous les prophètes de Dieu. Et je remercie la télévision Al-Houda de m'avoir permis de ne pas passer inaperçu au Burkina. Par la grâce de Dieu, et que Dieu vous assiste.
C'est un honneur pour nous.
Que Dieu vous assiste à partir de, en commençant par votre les promoteurs, comme je le disais, ce n'est pas un hasard. Donc si cette télévision existe aujourd'hui, vous devez savoir que cela a été connu dans la préscience de Dieu bien avant, parce que rien n'échappe à la connaissance de Dieu, et que Dieu vous avait choisi, vous, toute l'équipe de la télévision Al-Houda, pour qu'à travers vous, cette œuvre puisse naître pour la fierté des musulmans en particulier et la fierté de tous les Burkinabés en général.
Chers frères et sœurs en islam, c'est donc la fin de cet entretien que nous avons eu le plaisir de conduire avec Cheikh Abdelmadjid du Congo. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Pour répondre, wa rahmatullahi wa barakatuh.